Je vais lire quelques versets dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que j'en sache le nombre. » Et Joab dit que l'Éternel ajoute à son peuple 100 fois autant qu'il y en a. « Oh, pourquoi mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur ? Pourquoi mon Seigneur cherche-t-il cela ? Pourquoi la coupe en viendrait-elle sur Israël ?» Mais la parole du roi prévalut sur Joab. Verset 7. Et cette chose fut mauvaise aux yeux de Dieu, et il frappa Israël. Et David dit à Dieu que j'ai grandement péché en ce que j'ai fait cette chose. Et maintenant, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. Et l'Éternel parla à Gad, le voyant de David, disant, va et parle à David, disant qu'ainsi dit l'Éternel, je te propose 3 choses. Choisissant une, je te la ferai. Et Gad vint vers David et lui dit, ainsi dit l'Éternel, prends pour toi pour 3 ans de famine, ou d'être pourchassé 3 mois devant tes adversaires, et d'être atteint par l'épée de tes ennemis, ou pendant 3 jours l'épée de l'Éternel et la peste dans le pays, et l'ange de l'Éternel détruisant dans tous les confins d'Israël. Et maintenant vois quelle parole je rapporterai à celui qui m'a envoyé. Et David dit à Gad, je suis dans une grande détresse. Que je tombe, je te prie, dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont très grandes, et que je ne tombe point dans la main des hommes. Et l'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba d'Israël 70 000 hommes. Et Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il détruisait, l'Éternel le vit et se repentit de ce mal, et dit à l'ange qui détruisait, passe et retire maintenant ta main. Or l'ange de l'Éternel se tenait près de l'herbe d'ornant le Jébusien. Et David leva ses yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et les cieux, ayant dans sa main son épée, nue étendue sur Jérusalem. Verset 18. Et l'ange de l'Éternel commanda à Gad de dire à David que David monta pour dresser un autel à l'Éternel dans l'air dormant le Jébusien. Et David monta selon la parole de Gad qu'il avait dite au nom de l'Éternel. Verset 21. Et David vint à Ornan. Et Ornan regarda et vit David et sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. Et David dit à Ornan, donne-moi la place de l'air et j'y bâtirai un autel à l'Éternel. Donne-la-moi pour son plein prix en argent, afin que la plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Verset 26. Et David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité et invoqua l'Éternel. Et il lui répondit par le feu des cieux sur l'autel de l'Holocauste. Et l'Éternel parla à l'ange et le remit son épée dans son fourreau. En ce temps-là, David, voyant que l'Éternel lui avait répondu dans l'air dormant le Jébusien, il sacrifia. Et le tabernacle de l'Éternel que Moïse avait fait dans le désert et l'autel de l'Holocauste était en ce temps-là sur le haut lieu de Gabaon. Et David ne put point aller devant cet autel pour rechercher Dieu, car il était épouvanté à cause de l'épée de l'ange de l'Éternel. Et David dit, c'est ici la maison de l'Éternel Dieu, et c'est ici l'autel pour l'Holocauste d'Israël. Un peu plus loin, pour David parle à Salomon, 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et serve-le avec un cœur parfait, et avec une âme qui y prenne plaisir, car l'Éternel sonde tous les cœurs et discerne toutes les imaginations des pensées. Si tu le cherches, il se fera trouver de toi. Si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Et voici, maintenant, l'Éternel t'a choisi pour bâtir une maison, qui fut son sanctuaire, fortifie-toi et agis. Et David donna à Salomon, son fils, le modèle du portique, et de ses maisons, et de ses trésoreries, et de ses chambres hautes, et de ses chambres intérieures, et de la maison du propitiatoire, et le modèle de tout ce qu'il avait par l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel et toutes les chambres tout autour. Et puis verset 19. Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. Je te vois déjà sur ces passages. C'est pour rappeler comment était construite la maison de Dieu à Jérusalem. Comment Dieu avait montré l'emplacement. C'est d'abord à la suite d'un châtiment sur David. David avait péché et on sait qu'il avait voulu connaître sa puissance. Or David avait remporté des victoires. Et David pensait sans doute que c'est à cause du nombre de ses soldats qu'il avait remporté des victoires. ce qui n'est pas évident du tout. C'est l'Éternel qui a fait remporter la victoire à David. Dans l'histoire d'Israël, c'est toujours l'Éternel qui remporte les victoires. Que le nombre soit très grand des soldats, qu'il y ait 2 millions de soldats, ou qu'il y ait quelques hommes comme Gédéon, c'est l'Éternel qui remporte les victoires. Ce n'est pas l'homme. Et David semble l'avoir oublié et semble vouloir connaître sa puissance. Pourquoi ? Pour sans doute se glorifier de sa puissance. Nous devons prendre garde, nous aussi. Nous sommes dans un combat, dans une lutte, peut-être dans ces jours-ci plus que plus dans d'autres temps. Eh bien, celui qui peut remporter la victoire pour nous, c'est le Seigneur. Ce n'est pas nous. Fortifiez-vous dans la puissance de sa force, à lui, au Seigneur, pas la nôtre. La nôtre n'a aucune capacité devant Dieu ni dans les choses de Dieu. Il n'y a en nous aucune capacité. Il faut que le Seigneur agisse. S'il veut agir au travers de nous, soyons disponibles pour lui. Alors il y aura quelques victoires. Et si nous résistons, Seigneur, il y aura victoire. Même si nous sommes nombreux, même si nous sommes capables, même si nous sommes des grands discoureurs, pas du tout. Non, ce qu'il faut, c'est que nous soyons des instruments dans la main du Seigneur et que nous ayons conscience d'être des instruments. Et que nous sachions alors nous reposer en lui. Ici, David a donc dénombré son peuple et voici, donc sans doute fier d'avoir, je ne sais combien d'hommes, mais un grand nombre, 1100 000 hommes tirant l'épée de Juba, 470 000 hommes tirant l'épée. Voilà, c'était une armée importante. Mais la chose fut mauvaise aux yeux de Dieu. Pourquoi fut-elle mauvaise aux yeux de Dieu? C'est parce que, en quelque sorte, on avait l'air de mettre de côté Dieu, la puissance de Dieu, l'intervention de Dieu. Inutile, puisqu'on a tellement de puissance d'hommes, n'est-ce pas, on a tellement d'hommes qui peuvent tirer l'épée. On l'appelle, on s'appelle Dieu. En quelque sorte, c'est mépriser l'intervention de Dieu. Nous risquons, je le dis, nous risquons nous aussi de ne pas interpeller Dieu, de ne pas faire appel au Seigneur pour les délivrances dans les difficultés qui sont devant nous. Nous risquons nous aussi de vouloir nous en sortir nous-mêmes. Nous n'en sortirons pas. Et nous voyons donc ici l'Éternel donc châtie David, parce que voilà, ses yeux c'était un péché. Le choix de trois châtiments différents. David retrouve de la sagesse. David dit à Gad au verset 13, je suis dans une grande détresse, que je tombe, je te prie, dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont très grandes, et que je ne tombe point dans la main des hommes. David la retrouve de la sagesse. Ne pas tomber surtout dans la main des hommes, non. Mais dans les mains de l'Éternel, ses compassions sont très grandes. Alors voici, l'Éternel envoie la peste, comme nous l'avons vu. Il y a destruction de 70 000 hommes, et puis l'ange de l'Éternel se tient sur Jérusalem, et David intercède, nous n'avons pas lu le passage, nous le connaissons. Et puis, c'est la désignation de l'air dormant pour offrir le sacrifice. Et David offre le sacrifice. Présente le sacrifice. David, au verset 26, bâtit un autel à l'Éternel, offrit les holocaustes, les sacrifices de prospérité, invoqua l'Éternel, et lui répondit par le feu du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Le feu du ciel qui tombe sur l'autel de l'Holocauste. Et l'Éternel par la langue, il remit l'épée dans son foulard. Alors David comprend. C'est ici la maison de Dieu. C'est solennel. Voir le feu du ciel tomber juste sur l'Holocauste qu'on vient d'établir là. C'est ici la maison de Dieu. Et c'est ainsi que Jérusalem a été désigné comme étant le lieu où l'Éternel voulait faire habiter son nom. Maison de Dieu. Il fallait construire une maison de Dieu là, sur l'air dormant de Jébusin, sur le mont Morizon. Et elle n'a pas été construite d'ailleurs. Elle n'a jamais été construite. Et les Juifs n'ont jamais cherché à construire une maison de Dieu ailleurs. Jamais. C'est le seul lieu sur la terre que l'Éternel ait choisi pour y faire habiter son nom. Et cette maison est construite donc sur le lieu où le feu du ciel est tombé sur l'Holocauste. Cela nous parle. Cela nous parle, si on fait un parallèle avec ce qu'il en est de l'Assemblée de Dieu, nous voyons bien que le fondement est le même. Le feu du ciel qui tombe sur l'Holocauste. Christ est l'Holocauste, Christ le sacrifice parfait. Christ qui représente tous les sacrifices. Christ, il a connu le feu du ciel. Lui a connu le feu du ciel, il a connu la colère de Dieu tombant sur lui, le feu du jugement tombant sur lui. Il a été consumé par le feu du jugement. Quand Christ a dû crier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle souffrance! Quelle condamnation à la face de son Dieu qu'il avait toujours si fidèlement servi. Il fait toujours les choses qui lui plaisent, vous l'avez dit. Vous pouvez dire, qui me convaincra de péché? Et nul ne pouvait le convaincre de péché. Eh bien, c'est lui qui était là, cloué sur le bois, maudit, car il était dit, maudit quiconque est pendu au bois, et c'est lui qui a connu la colère de Dieu tombant sur le péché. Juste père, colère qui se devait d'elle-même de régler la question du péché, de châtier le péché. Et c'est Christ qui était là. On peut dire que ce sacrifice ici, consumé par feu du ciel, représente ce que Christ a été consumé par la colère de Dieu sur le bois de la croix. À partir de là, le troisième jour, Christ est ressuscité de mort. Et c'est de ce sacrifice qui naît l'assemblée, la maison de Dieu en esprit. Lorsque Christ est ressuscité, tous ceux qui ont cru en lui sont tenus comme ressuscités avec lui. Et c'est avec cela qu'il forme son assemblée, la maison de Dieu en esprit. Les membres de son corps, par le Saint-Esprit, il a fallu que Christ soit entré dans la mort, qu'il en soit sorti victorieux, qu'il soit glorifié, pour qu'il ait pu envoyer le Saint-Esprit qui rassemble en un tous ceux qui sont à lui. Tous ceux qui ont entendu et qui ont cru. L'évangile de leur salut. N'est-ce pas la parole de la vérité, l'évangile de leur salut. Qui sont certains du salut, de leur salut, quelque sorte. Tous ceux-là sont scellés de l'Esprit. L'Esprit venant comme un sceau, venant demeurer en eux comme un sceau, la marque de Dieu sur eux. Et ce sont ceux-là qui sont liés les uns aux autres et à la tête qui est glorifiée. Corps de Christ, qui est son assemblée, qui est son corps. Il y a un côté extérieur, nous verrons ce qu'il en est. Mais il y a ce qui est de Dieu, ce qui est fait par le Seigneur. Ce rassemblement qui est autour du Seigneur est lié au Seigneur. Le Seigneur a pu dire à Pierre, eh bien, qui venait de confesser que le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur a pu dire, sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et ce qu'il bâtit, c'est solide. Ce qu'il bâtit, c'est définitif, c'est éternel. Autre côté, bien sûr, il s'agissait de bâtir, et aussi ici, il s'agit de bâtir une maison pour l'éternel. Si je vais un peu plus loin, c'est pour montrer comment Dieu prend soin de sa maison. Je vais au chapitre 28. Et au 28, donc, David donne des ordres à son fils Salomon, car c'est lui qui va être chargé de construire la maison. Au verset 11, nous trouvons David donna à Salomon, son fils, le modèle de le portique, et ses maisons, ses trésoreries. Et puis au verset 12, le modèle de tout ce qu'il avait par l'esprit, touchant les parvis, la maison d'Éternel. Si nous lisions la suite, nous verrions qu'il y a tout le détail des instruments qui sont nécessaires au culte de l'Éternel. Et puis, à la fin, verset 19, cette parole importante, « Tout cela, dit David, toute l'œuvre du modèle, il m'en a par écrit donné l'intelligence par la main de l'Éternel sur moi. » David n'a pas inventé la maison de Dieu. David n'a pas inventé ce qui devait être de la maison de Dieu. Il a suivi exactement ce que Dieu lui donnait comme modèle. Cela nous rappelle, bien sûr, ce que aussi Moïse avait vu, le modèle du tabernacle sur la montagne. Et il s'agissait de faire comme il avait vu. Il n'avait pas, lui non plus, la permission ni la liberté d'ajouter quelque chose ou de retrancher quelque chose. Dieu avait donné ce qu'il avait dit, ce qu'il fallait faire. Il s'agissait seulement d'obéir. Dans l'assemblée de Dieu, on ne fait pas ce que l'on veut. On risque bien de l'oublier souvent. On n'organise pas l'assemblée de Dieu comme il nous semble bon. Nous avons autour de nous des quantités de chrétiens qui se sont organisés comme il leur semble bon. Ils sont organisés ils ont fait un rassemblement, ils ont fait des règlements, ils ont fait un comité, ils ont fait un conseil, et ils ont organisé les fêtes, etc. C'est pas l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va diriger dans cette assemblée de Dieu. Et comme le Saint-Esprit a donné le modèle de ce qu'il fallait à David, eh bien, les frères qui forment cette assemblée de Dieu doivent s'attendre au Saint-Esprit pour leur donner ce qu'il convient de faire dans le jour où on est rassemblé autour du Seigneur. taillés ensemble. Ici, il y avait un centre, c'était selon Morija, où le feu du ciel avait consumé l'Holocauste. Notre centre, c'est Christ, consumé par la colère de Dieu, mais ressuscité, et maintenant glorifié. Réunis au nom du Seigneur, voici le centre, le nom du Seigneur. Les croyants viennent au nom du Seigneur, pas au nom d'un homme quelconque, pas au nom d'un prédicateur, pas au nom d'une organisation, mais au nom du Seigneur. Et assemblés à son nom, je le souligne souvent, n'est-ce pas, ça indique un mouvement vers lui. Le grec, c'est assez clair, ça indique un mouvement vers le nom du Seigneur, le nom qui représente la personne du Seigneur. Aussi bien la réponse de sa part, c'est « Je suis là au milieu d'eux, je suis là ». C'est pas la peine d'aller ailleurs. Si c'est là, ou alors, si c'est simplement par sentiment religieux, on va ici à droite à gauche, et c'est simplement pour changer de milieu, changer de texte, changer d'organisation, bon, les hommes font ce qu'ils veulent. Mais nous croyons, lui qui veut servir son Seigneur, pourquoi se réunirait-il ailleurs que là autour de lui? Et alors, nous venons au nom du Seigneur. C'est, en fait, sur la terre, c'est la raison d'être du rassemblement au nom du Seigneur. Nous n'organisons pas. Ici, il y a donc tout ce qu'il fallait voir par l'esprit pour organiser. Disons un peu plus loin, et nous voyons comment Salomon a réalisé la chose au chapitre 3. Deux chroniques. Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'air d'ornant le Jébusien. Et il commença de bâtir le second jour du second mois, en la quatrième année de son règne. Or, Salomon n'a pas perdu de temps. Quatrième année de son règne, et voici commençant à bâtir une maison considérable pour l'Éternel, selon les directives qu'il avait reçues de l'Éternel, au lieu que l'Éternel avait choisi. J'insiste sur ce point. J'insiste sur ce point parce que, actuellement, pour nous, nous devons nous réveiller à ce fait que le Seigneur a désigné un lieu pour nous rassembler. Son nom, là où deux ou trois, c'est pas le nom, c'est pas la foule. Là, ben, si la foule est au nom du Seigneur, tant mieux. Mais si on se réunit au nom du Seigneur et que nous ne sommes que deux ou trois, cela suffit pour que le Seigneur soit là. Je suis là au milieu d'eux. Et l'importance du rassemblement des saints, c'est le fait que le Seigneur est là. Pensons à cela, c'est quelque chose de solennel d'être réuni au nom du Seigneur, puisqu'il est présent au milieu de nous. C'est quand même quelque chose de solennel. Je parle pour une réunion faite à son nom, réunion de culte, pour le culte par exemple, réunion d'édification, réunion, bon, une réunion convoquée, on ne peut pas précisément dire. Bon, je pense que le Seigneur puisse être là aussi, n'est-ce pas? Et toutefois, c'est à la charge d'un homme, donc on peut supposer que cet homme est conduit par l'Esprit, ce qui n'est pas non plus toujours évident, mais je parle du rassemblement pour adorer, l'adoration. Nous venons là, pas un homme, nous venons Christ, c'est là. Nous ne parlons pas à un homme, nous parlons au Seigneur, nous parlons au Père du Seigneur, son Fils. Et nous sommes conduits, en principe conduits par le Saint-Esprit. Alors nous comprenons que nous devons être, que le Saint-Esprit doit être libre dans nos cœurs. Et s'il y a quelque chose qui le gêne, quelque chose qui l'attriste, parce qu'il est écrit quelque part, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Quelque chose l'attriste dans nos cœurs, est-ce qu'il aura encore la liberté de vous conduire pour exposer la louange au Père comme il convient? Ou est-ce qu'il ne va pas être obligé de nous faire retourner sur nous-mêmes pour nous montrer ce qui ne va pas dans nos cœurs? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il sait s'il en est dans nos cœurs. Il sait quels sont nos sentiments. Il sait quelles sont nos pensées. Hein? Alors. Prenons garde, il faut quand même être soumis à l'Esprit de Dieu pour pouvoir être des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pas automatique. Dieu cherche. Le Père cherche le Père. Le Père en cherche. On va dire, bon, ben, tous ceux qui sont croyants sont des adorateurs. Non, le Père en cherche. Il en cherche de tel qu'il adore en esprit et en vérité. Et on peut penser qu'il y a bien des croyants qui sont sauvés parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus mort et ressuscité. Bon, et qui ne sont pas pour autant des adorateurs. s'il n'y a pas de certitude du salut, par exemple, dans le cœur d'un croyant, s'il est encore à se demander si Dieu l'accepte ou l'accepte pas, j'ai rencontré le cas il n'y a pas bien longtemps. Personne qui était mal enseigné, bien sûr, mais en posant la question, est-ce que vous êtes sûr de votre salut, est-ce que vous êtes certain? Et si vous mourrez tout à l'heure dans l'accident de voiture, est-ce que vous allez au ciel? Ouais, j'en suis sûr, n'est-ce pas? Je l'ai parlé quand même. Et il me dit, oh, pendant longtemps, je n'ai pas su si j'étais sauvé. Bon. Manifestement, c'est une chrétienne. Mais pendant longtemps, je n'ai pas su si j'étais sauvé. Pourquoi? Ah ben, il y a quelque chose dans sa vie qui n'est même pas un péché. Mais quelque chose qui le pesait sur la conscience, qui n'était même pas un péché. C'était même pas contraire à l'Écriture, bien sûr. Et bien, l'idée qu'elle se faisait de conjuguer avec eux, parce que, elle est dans un milieu où on place très facilement les nouveaux venus sous la loi, n'est-ce pas? Et on disait, faut pas faire ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. C'est pas écrit, non. Il n'y a pas que des âmes comme ça autour de nous. On dit qu'il y a des âmes qui sont des enfants de Dieu, mais qui ne sont pas en mesure d'adorer parce qu'elles sont encore dans la crainte. Afin d'approcher de Dieu. Elles ont raison si elles étaient dans leur péché encore, elles ont raison d'avoir peur de Dieu. Lorsqu'Adam a péché, eh bien, le premier geste qu'il a fait, c'est d'aller se cacher en entendant la voix de l'Éternel dans le jardin. Où es-tu? Ah, j'ai eu peur, enfin, je me suis caché, j'ai eu peur. Parce que je suis. Si nous comparaissons nus devant Dieu, nous avons raison d'avoir peur. Et si nous sommes couverts par Christ, si nous sommes revêtus de Christ, inutile d'avoir peur. Inutile. Christ a tout réglé et nous donne la liberté totale d'approcher de Dieu comme des enfants s'approchent d'un père. Et alors là, nous pouvons louer Dieu. Louer Dieu de nous avoir donné un si grand sauveur pour un si grand salut. Enfin, nous pouvons approcher dans toute liberté. Nous pouvons louer Dieu parce qu'il nous a tirés de notre misère pour nous placer là devant lui comme des enfants. Quelle chose extraordinaire et quelle chose merveilleuse. Alors nous serons là, nous rendrons le culte que Dieu attend de nous, culte en esprit et en vérité. Hélas, tous les enfants de Dieu ne connaissent pas la chose. Lorsque le Seigneur viendra, il n'y en a aucun qui manquera au cri commandement. Tous seront enlevés, bien sûr. Lui le fera. Lui se présentera à l'Assemblée à lui-même, sans tâche ni rire. Elle sera glorieuse. Mais en attendant, des quantités d'âmes restent dans la peine parce que l'évangile de leur salut ne leur a pas été enseigné comme il convient. On dira, elles ont l'Écriture. Seulement, je connais, auquel je pense, avait l'Écriture. Elles ne voyaient pas. Parce que l'enseignement des hommes prend la place. Dans bien des milieux, l'enseignement des hommes prend la place de l'Écriture. Alors on écoute ce que dit un tel, un prédicateur tel et tel, on l'écoute, et puis on a pourtant le texte sous les yeux, et puis voilà. Alors, il explique tellement bien d'une autre façon, prenons garde aux séducteurs. L'apôtre était déjà obligé d'avertir les croyants de son époque de ne pas se laisser séduire par des doctrines diverses, mais de s'attacher à la vraie doctrine, celle que lui, l'apôtre Paul, enseignait, de s'attacher là, à cette vraie doctrine. Nous devons nous attacher à la doctrine de Paul. De nos jours, il y a un effort qui est fait par l'ennemi pour essayer de nous détourner de cette doctrine. Il faut nous attacher à la doctrine de Paul. Et particulièrement concernant le rassemblement au nom du Seigneur, le rassemblement des deux ou trois, qui est une manifestation de l'Assemblée de Dieu, qui est aussi un témoignage à l'unité du corps. On rejette les témoignages. Et pourtant, c'est là le témoignage. Deux ou trois assemblées au nom du Seigneur. Sans doute, ça suppose certaines règles. Il s'agit de croyants, je l'ai déjà dit, je le répète, pour la vérité. Il s'agit de croyants. Nous disions hier, dans Esdras, nous pouvons bien le relire, ça ne fera pas mal. Il faut lire l'Écriture et la relire. Alors, sinon, Esdras au chapitre 2, parce qu'on nous demande, mais croyons, où y a-t-il un examen dans l'Écriture, ou est-il question d'un examen pour pouvoir s'approcher de la table du Seigneur? Eh bien, évidemment, au Nouveau Testament, on voit les croyants qui ont un peu de pain. Et pourtant, dans l'Ancien Testament, C'est aussi la parole de Dieu, c'est la parole inspirée. Eh bien voilà, les arrêts. Esdras, chapitre 2, verset 50. Nous savons que on parle de ceux qui sont remontés de Babylone à Jérusalem. Verset 59, et voici ceux qui montèrent de tel Mélac, de tel Archa, de Kérub, Adam, d'Imer, mais ils ne purent pas montrer leur maison de père et leur descendance, s'ils étaient d'Israël. Les fils de Léaïa, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652, et les fils des sacrificateurs, les fils de Obaïa, les fils d'Akot, les fils de Barzilaï, qui prit une femme d'entre les fils de Barzilaï, le Galaï, qui fut appelé leur nom. Ceux-ci cherchèrent leur inscription généalogique, mais elle ne se trouva pas, et ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient point manger des choses très simples, jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur avec les urines de l'étude. Voilà donc les hommes qui avaient suivi ce groupe de 50 000, qui sont montés de Babylone pour reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem, selon l'ordre de Cyrus. Voilà, ils étaient montés, ils avaient fait les 2000 kilomètres qui séparent Babylone de Jérusalem, avec les autres. Certainement, il y avait un aspect religieux dans leur affaire, n'est-ce pas? Certainement, ils avaient de l'intérêt. Allez, on dira, ça suffit. Et pour le Tirshata, ça n'a pas suffi. Pour servir au temple, ça ne suffisait pas, l'intérêt. Il fallait qu'il y ait une réalité, et pas seulement quelque idée, quelque désir d'être, de paraître religieux ou pas, ou même quelque intérêt pour les choses religieuses. Non, il fallait la réalité. Et la réalité pour un juif, la réalité pour les sacrificateurs, plus exactement, c'était d'être fils d'Aaron. D'ailleurs, on va pas le montrer. Si on n'était pas fils d'Aaron, on n'était pas sacrificateur. Si on était fils d'Aaron, on était sacrificateur. Et on leur demande de montrer leur généalogie. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont fils d'Aaron. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils sont sacrificateurs. Le Tirshata, remarquons que le Tirshata ne leur dit pas qu'ils ne le sont pas. Au verset 63. Verset 62. Ils furent exclus comme profanes de la sacrificature. Et le Tirshata leur dit qu'ils ne devaient point manger les choses très simples jusqu'à ce que fût suscité un sacrificateur des jeunes et des filles. Il ne leur dit pas qu'ils ne sont pas sacrificateurs, ils ne peuvent pas le montrer. Et s'ils ne le montrent pas, eh bien ils sont exclus de la sacrificature. Jusqu'à ce que un sacrificateur avec les urim et les thummim apparaisse. Nous savons que les urim et les thummim, étaient dans le pectoral, servaient au sacrificateur à discerner la volonté de Dieu. C'est bien quelque chose. Je pense qu'en parallèle avec l'Ancien Testament, puisque ces choses sont écrites pour nous servir d'exemple, pour notre instruction, eh bien, nous devons nous aussi nous informer si ceux qui veulent s'approcher et partager le pain à la table sont des sacrificateurs. Sacrificateurs de louange, bien entendu, mais sacrificateurs. Donc, étant certains de leur salut, étant capables de rendre grâce à Dieu, non pas de la bouche. De la bouche, on peut dire des belles choses. On peut même apprendre des beaux discours. On peut même réciter l'Écriture. Et du cœur, sacrificateur du cœur. Alors, bien, il nous faut un certain temps pour voir cela. Eux, ils n'auraient eu qu'à montrer un registre. Fils d'eux, nous voyons ça avec les chroniques, n'est-ce pas? Ils n'ont pas pu le faire. Nous, il nous faut quelques preuves. Il nous faut que celui qui prétend être sacrificateur, il faut quand même qu'il montre une manifestation de sa conversion. Il faut au moins qu'ils puissent parler des choses de Dieu d'une façon sensée. Il faut qu'il y ait un intérêt pour la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait en lui quelque manifestation de la vie chrétienne, dans la vie quotidienne, dans les rapports avec les autres, avec les hommes qui l'entourent, ses voisins, sa famille. Nous devons attendre cela, nous devons voir cela. Alors si c'est un homme de foi, et nous voyons chez lui la foi en action, c'est un sacrificateur qui peut s'approcher. Et voilà les questions. Sinon, alors, on va laisser introduire n'importe quel homme, n'importe quel homme religieux, simplement religieux. Et puis, nous rompons le pain avec lui. Or, le pain signifie le même corps. Je parle d'une expérience personnelle, n'est-ce pas, ma foi, qu'on m'excuse de parler de moi, mais quand j'étais dans l'église réformée, j'ai rompu le pain, moi, avec un très brave homme, d'ailleurs, très très brave homme, mais qui était bouddhiste. Voilà, c'est un homme qui avait été dans l'église réformée dans sa jeunesse. Il était l'église réformée. Et il a fait une carrière aux Indes. Il était revenu à sa retraite. et il revenait naturellement à l'église fondée. Et puis, il faisait la propagande pour la société théosophique de Paris, qui est une société mixte. Mais à l'église réformée, ça gênait pas. Hein. Et une fois que nous étions ensemble, à Montpellier, directement, le pasteur avait coupé son pain et distribué, j'étais à côté de lui. Et l'idée m'est venue, je me dis, mais nous ne sommes pas un seul pain intégriste. Nous sommes un seul pain avec tous les croyants, confession du Seigneur. Le pape, si c'est un croyant, c'est pas un intégriste. Ça a été pour moi la lumière. Il fallait nécessairement faire la distinction entre ceux qui étaient chrétiens, on peut tellement employer le mot chrétien maintenant, ça signifie plus grand chose, mais disciples du Christ, n'est-ce pas, enfants de Dieu, et ceux qui n'étaient que des hommes religieux. Des hommes religieux intéressés par les choses religieuses, bien sûr, mais des hommes religieux seulement, et non pas des enfants de Dieu vivants de la vie de, Dieu, même et ayant le Saint-Esprit comme marque de Dieu. Nous devons prendre garde à cela, parce qu'on risque d'être entraînés vers des façons de faire sur lesquelles on a l'air de passer dans certains endroits, dans certains endroits, légèrement. On dira, ben voilà, il confesse le nom du Seigneur, tout le temps. Nous sommes déchargés parce que nous avons des lettres de recommandation. Alors, ce sont ceux qui ont signé la lettre et qui sont responsables. Mais on arrive à s'en passer maintenant même parmi nous. On arrive à recevoir sur la simple parole de quelqu'un qui ne connaît pas plus celui qui l'amène que ceux qui sont là. Prenons garde à cela. Prenons garde à cela, sinon c'est le déclin. Nous devons tenir ferme au principe du rassemblement. Le principe du rassemblement, c'est des croyants scellés d'esprit réunis autour du Seigneur et sous l'autorité de la parole de Dieu et conduits par le Saint-Esprit. L'autorité de la parole de Dieu, c'est important. Reconnaître l'Écriture dans son entier comme parole de Dieu, et non pas, comme on dit dans certains milieux, très répandue d'ailleurs, doctrine très répandue, la parole de Dieu se trouve dans l'Écriture. Eh bien non. L'Écriture est la parole de Dieu. Et considérez les choses, vous verrez que ce n'est pas du tout la même chose. Nous, nous tenons l'Écriture pour parole de Dieu, depuis le premier mot de la Genèse, jusqu'au dernier mot de l'Apocalypse, pour nous, elle est parole de Dieu. Si on nous dit la parole de Dieu se trouve dans l'Écriture, alors il faut la chercher. Alors, Ésaïe, c'est pas Ésaïe, bien sûr, Ésaïe n'a pas pu écrire ça, n'est-ce pas? Il a écrit comme les hommes de son temps, Esdras, c'est pas Esdras, etc. J'ai jamais entendu des théories comme ça. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit à ce que le pasteur en question, quand il est informé, il me dit, oh ben, avez-vous quand même, j'ai rajouté quelques pages. Quelques pages, je n'ai pas rajouté toutes les pages. En fait, il n'y avait plus rien entre les deux couvertures. Nous devons prendre garde à cela parce que ça dit, ça gagne au milieu et nous devons nous défendre ce sujet. Nous devons tenir ferme la vérité. Il faut un peu d'énergie pour tenir ferme la vérité, mais elle est nécessaire. Et puis, il y a cette direction de l'esprit qu'on a remplacée dans la chrétienté par la direction d'un homme. Auquel on donne un titre tant qu'on veut, je ne sais pas, les pasteurs, les prêtres, les théologiens. On n'a pas besoin de titre pour parler de la part de Dieu. Quel titre avait Pierre? Quel titre avait Paul? Quel titre avaient les hommes du début, les disciples du Seigneur, qui n'étaient que de simples marins? Quelle étude avaient-ils faite? Vous allez écouter le Seigneur. Ils avaient écouté le Seigneur, ils étaient conduits par l'Esprit, et ils étaient capables de fermer la bouche au Saint-Esprit, tout simplement. C'est ce qu'il faut que nous... C'est notre part. C'est ce que nous faudrait faire. Hein, pour que nous puissions laisser agir l'Esprit librement. Nous sommes quelquefois maintenant, de nos jours, il y a bien le risque d'être un peu écrasés par l'intellectualisme. Enfin, nous devons prendre garde. L'esprit doit être pleinement libre. Il peut se servir d'un frère tout simple qui dira trois mots ou trente ou trois cents, ça ne fait rien. Et qui dira des choses simples. Et nous avons besoin d'écouter. Il y a dans les Thessaloniciens, un verset, premier aux Thessaloniciens, à la fin, du chapitre 5, au verset 10, je dirais à partir du verset 18. Priez sans cesse, en toute chose, rendez grâce, car telle est la volonté de Dieu dans le Christ Jésus à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. N'éteignez pas l'esprit. Il s'agit de l'esprit agissant dans l'assemblée. Il ne s'agit pas de l'esprit demeurant dans un homme. Cela doit être éteint. Il habite là pour l'éternité. Il nous a donné le Saint-Esprit pour être avec nous éternellement. Mais il s'agit de l'esprit agissant dans l'assemblée qui peut être éteint. Qui peut être éteint si on n'écoute pas. Ne méprisez pas les prophéties. Dans 1 Corinthiens 12, nous avons la définition de la prophétie. Hein, celui qui exhorte, qui console, qui parle aux hommes, pour l'exhortation, la consolation, l'édification. Voilà, le prophète du Nouveau Testament, c'est pas celui qui annonce l'avenir. Celui qui parle de la part de Dieu pour toucher les consciences et les cœurs et consoler, exhorter, édifier. N'éteignez pas les choses. Ne méprisez pas les prophéties. On pourrait mépriser parce que peut-être la façon de parler n'est pas plus convenant. Parce que celui qui parle s'embrouille un peu peut-être dans ses pensées, peut-être. Parce que ce n'est pas un personnage important. Ne méprisez pas les prophéties. Un frère saint se lève et dit ce qu'il a à dire, ne méprisons pas les prophéties. Sinon nous risquons d'éteindre l'esprit et puis d'éprouver toute chose. Ce qui est dit, éprouver toute chose. Il est dit dans 1 Corinthiens, toujours, n'est-ce pas, ce qui concerne l'assemblée, que l'un parle et que les autres jugent. Et ça, éprouver toute chose. Juger ce qui est dit, donc éprouver toute chose. Que ce soit un frère simple qui parle, éprouvons toute chose. Voyons ce qu'il a dit. Nous allons ce qu'il a dit. S'il a à reprendre, je reprendrai. Peut-être. C'est peut-être aussi un frère très instruit qui parle. Avec beaucoup d'éloquence, éprouver toute chose. Nous avons aussi à considérer ce qu'il dit et la parole. Peut-être les Béréens étaient considérés comme plus nobles que ceux de Thessalonique, nous savons. Et regardez chaque jour dans l'Écriture si ce qu'on leur disait était vrai. Et c'était Paul qui parlait. C'était pas n'importe qui, quoi. Et bien c'était Paul qui parlait, les Béréens disaient, voyons, qu'est-ce qu'il nous raconte là? Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Nous devons prendre garde à ça aussi. Parce que nous risquons de donner du pouvoir à des hommes, non pas que ceux-ci ne soient pas fiables, mais c'est toujours un danger de donner un pouvoir à l'homme. Il faut bien les assembler, non pas de grands discoureurs, de grands prophètes. Mais le Seigneur prend soin de son assemblée. Pourquoi s'appuyer sur d'autres qui sont un peu à l'autre bout de la France, et puis voilà, ils parlent beaucoup mieux, ils ont plus de connaissances, sans doute, et leur enseignement est reconnu de tous, comme on le dit quelquefois, sans doute, leur enseignement. Bien d'accord. Mais leur sagesse pour diriger, pour manier, pour apporter quelque chose dans un rassemblement, apporter une solution dans les difficultés d'un rassemblement, où est-elle leur sagesse? Est-ce qu'ils sont désignés pour cela? Responsables de l'assemblée locale, ce sont les frères de l'assemblée locale qui sont responsables. Et il faudrait que les frères des assemblées locales prennent conscience qu'ils sont responsables devant le Seigneur de la tenue de l'assemblée dans laquelle ils sont. Et on ne choisit pas son assemblée. On n'a pas choisi sa famille quand on est né. On est né dans une famille, et puis on est dans cette famille-là. Ça ne marche pas toujours tout seul, les familles, bien sûr. Enfin, on y est. Et quand on est de nouveau à proximité d'un rassemblement, on ne choisit pas un rassemblement. Pourquoi, étant né de nouveau, converti à la poussière, irait-on chercher quelque chose à je ne sais où, à Tournon, ou à Valence, ou ailleurs? Si on est né là, né de nouveau de la commune, on habite là dans la commune, il faut venir au rassemblement de la commune. Sinon, on fait sa propre volonté. Or, nous sommes toujours appelés à faire la volonté du Seigneur et non pas la nôtre. Ça, c'est constant. Nous ne pouvons pas nous immiscer notre volonté dans les choses de Dieu. Nous devons toujours chercher, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur répond. Quand on dit, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur répond. Mais sinon, si on commence par décider ce qu'on va faire, et puis qu'ensuite on prie le Seigneur, bénis-nous, n'est-ce pas, alors ouvre notre chemin, bénis-nous. Il ne répondra pas, puisqu'on a décidé soi-même de faire ce qu'on veut. Nous devons prendre garde à toutes ces choses. Nous avons besoin d'être réveillés dans les assemblées, et je crois que le Seigneur est en train de préparer. Seulement, bien entendu, le réveil, c'est toujours pareil, c'est quelquefois douloureux. avec toi, toi qui dors et te relèves d'entre les morts, et tu dis dans les Éphésiens. Donc qui dort et un mort à côté, on ne fait pas la distinction. Cependant, il y a une distinction essentielle. Il y en a un qui a la vie ou qui ne l'a pas. Ça, c'est une distinction. Alors, celui qui dort, c'est celui qui est croyant, mais on ne voit pas de manifestation de la vie. Et pourtant, c'est un croyant. Donc, il y a la vie. Eh bien, réveille-toi et te relève d'entre les morts. Il s'agit de se relever d'entre les morts. Pour maintenant vivre pour le Seigneur, peut-être plus fidèlement, dans le jugement de soi-même. C'est une chose aussi qu'il faut souligner, le jugement de soi-même. On en parle facilement. On parle facilement de repentance, on parle facilement de repentance pour ceux qui nous entourent, n'est-ce pas, repentez-vous et croyez à l'Évangile. Mais il y a aussi question de repentance pour ceux qui ont cru l'Évangile. Quand on lit dans les actes de l'Apocalypse, les lettres qui représentent, les lettres de cette Église, qui représentent l'histoire de l'Église, et bien cinq fois il est dit repentez-vous, à cinq églises sur sept, repentez-vous. Une, non, parce qu'elle était dans la persécution, ça lui suffisait sans doute pour être réveillé. Et l'autre, c'est Philadelphie, donc peu de force, mais il n'a pas remis en main. Il a eu plus à se repentir, il n'a pas remis son nom, j'ai gardé ma parole. Bon, alors voilà. Mais les autres, repentez-vous. Alors voilà. Bon, une assemblée peut se repentir, elle doit se repentir. S'il y a eu quelques endormissements, enfin, s'il y a eu quelques faiblesses, l'assemblée peut se repentir aussi. Les individus de l'assemblée, bien entendu aussi. Bien entendu. Confession des péchés, très important la confession des péchés. Et même la confession peut-être confessée d'un propos bien à l'autre, très important aussi. Et peut-être la confession publique aussi, très important. Parce que tout ce qui n'est pas confessé au Seigneur, au frère, au public, et bien tout ce qui n'est pas confessé charge la conscience. Et le sacrificateur qui a la conscience chargée n'est plus un sacrificateur. Il faut quand même comprendre ces choses parce que. Il faut bien dire que s'il nous arrive des ennuis, c'est parce que nous sommes en ennui. Nous devons nous réveiller. Et il y a aussi bien des choses dans l'Assemblée, des principes. Comment dire autrement? On ne veut plus du langage classique, bien sûr, on ne veut plus du langage. Il faut du langage moderne maintenant. Et le langage moderne, on ne comprend rien. Bon, alors il vaut mieux retenir le langage que nos frères ont employé jusqu'alors, que nous retrouvons dans les écrits de nos frères du siècle passé, qui ont été en quelque sorte nos conducteurs. Souvenez-vous de vos conducteurs, considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi. Et bien, nous avons de quoi nous souvenir de nos conducteurs. Ne rejetons pas de ce qu'ils ont écrit, ne rejetons pas ce qu'ils ont dit, et marchons à leur suite. Souvenir d'eux, c'est ça. Considérons l'issue de leur conduite, imiter leur foi. Nous allons imiter la foi de ces frères qui ont eu à lutter. Ils ont eu à lutter parce que d'abord, de toute façon, il y a toujours eu la lutte dans le christianisme. Toujours. Et le Seigneur le permet. Quand il y a des périodes de tranquillité, des périodes où tout va bien, eh bien, c'est là qu'on s'endort, bien sûr. Quand il y a quelque chose qui fait obstacle, quelque chose qu'il faut ôter, on commence à se réveiller. Seulement, est-ce qu'on est en état de combattre? Voyons au début du livre des juges que le Seigneur, que l'Éternel avait laissé des nations exprès pour qu'elles soient une écharpe dans le corps d'Israël, n'est-ce pas, pour qu'ils soient tenus, éveillés à la guerre. Il fallait qu'ils apprennent ce qu'est la guerre. Eh bien, nous aussi. Nous avons des certitudes, Christ qui va revenir, nous allons être enlevés à sa rencontre, nous allons être transformés à son image, nous le verrons tel qu'il est. Et nous serons introduits avec lui dans la maison du Père. Mais c'est à venir. Pour le moment, c'est dans un instant. L'avenir commence là, maintenant, dans un quart d'heure, c'est l'avenir. Mais en attendant, nous ne sommes pas encore dans l'avenir. Nous sommes là, présents sur la terre. Et nous avons un témoignage à rendre pour le Seigneur. Et ce témoignage ne peut être rendu que dans l'obéissance au Seigneur. Pas d'autre mot, l'obéissance. Si nous lisions en détail la construction de la maison de Dieu, nous verrions qu'il est toujours question d'obéissance. Si nous lisions l'établissement des sacrificateurs, des lévites, des chantres, nous verrions qu'on ne choisit pas son service. On a le service que Dieu nous donne. Et il s'agit d'accomplir fidèlement le service. Le père Archibald avait été obligé d'être rappelé à l'ordre. Il y avait un service que nous avons pour lequel. Nous avons un service, les uns ou les autres. Bon, quelquefois on voit clairement que ce service, quelquefois on le voit moins clairement. Demandons au Seigneur, nous bon Dieu, ah, n'est-ce pas? On ne choisit pas son service. On ne peut pas dire, tiens, moi je serai prophète, ou moi je serai docteur, ou moi je serai évangéliste. Non. Le Seigneur donne le don, évangéliste ou docteur ou prophète, il donne le don. Mais là je parle des dons, mais il y a des services dans l'Assemblée qui ne sont pas nécessairement accompagnés d'un don. C'est pas, il y a une charge dans l'Assemblée. Et les charges sont très importantes dans un rassemblement local. Le don dépasse le rassemblement local et s'adresse à toute l'Assemblée. Les charges, c'est le rassemblement local. Les charges des anciens, ceux qui sont à la tête, comme on dit dans les Romains, n'est-ce pas, les anciens qui ont aussi un service assez considérable. Et donc, je pense aux ceux qui l'ont dit. Timothée, 1 Timothée, verset 17. Les anciens qui président puement soient destinés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Car on est vécu de ce qu'on ne verra pas le bœuf qui foule le grain, l'oreiller digne de son salaire. Nous savons bien qu'il n'y a plus d'anciens désignés. Cette prérogative appartenait à l'apôtre. L'apôtre désigné pour des anciens. Et il envoyait même des représentants apostoliques, on peut dire, pour en désigner quand lui pouvait pas être. Timothée pouvait être un petit homme. Mais la charge d'ancien n'existe-t-elle pas encore? Est-ce que le Seigneur va laisser une assemblée locale sans qu'il y ait quelqu'un de sage parmi eux pour agir dans le bon sens, n'est-ce pas? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a dans toutes les assemblées des frères qui sont en mesure de dire quand même c'est ici le chemin, voyez-vous. Voyez-vous, c'est écrit, voyez-vous, qui sont en mesure de donner un enseignement. Ceux qui travaillent dans la parole et dans l'enseignement. Peut-être pas un enseignement de grande envergure devant la foule, mais un enseignement devant le peu de frères, deux ou trois assemblés à son nom, un enseignement dans le particulier, un enseignement de l'un à l'autre. Dans toutes les assemblées, il y a ça, n'est-ce pas? Il faut quand même qu'il se manifeste cela aussi. Sinon, s'il se laisse traîner par les autres qui sont d'ailleurs, parce qu'il y a des grands noms et des grands dons, ils n'ont plus une vitesse, ils ne sont plus en charge. Nous devons revenir, n'est-ce pas, aux choses simples dans l'Assemblée, à ce qui doit fonctionner dans l'Assemblée. Alors nous verrons clair pour régler les questions qui paraissent difficiles, mais pour le moment, nous verrons clair. Que Dieu nous aide à cela. Il y a forcément l'infirmité, nous sommes des hommes, bien entendu, et il y a de l'infirmité. Mais néanmoins, le Seigneur est toujours le même, il est tout puissant, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il nous dit que par son Esprit il nous conduira, ou l'Esprit est chargé de nous conduire dans toute la vérité, eh bien le Saint-Esprit nous conduira. Seulement, soyons ouverts à l'Esprit, ayant le cœur désireux d'être conduit, et quand il y a une direction, soyons soumis à cette direction de l'Esprit. N'inventons pas nous-mêmes quelque chose d'autre que ce que nous trouvons dans l'Écriture. Ce que nos frères précédents ont trouvé, c'est invraisemblable qu'on parle de ne plus réimprimer certains ouvrages des frères de l'éveil, sous prétexte que c'est plus moderne, le langage est plus moderne, maintenant il nous faut des choses modernes, des choses mathématiques, premièrement, deuxièmement, troisièmement, un trait, etc. Non. Je vois bien avec les nouveaux venus, les nouveaux convertis que je rencontre dans mon service ici et là, que les ouvrages du réveil. Bien sûr, il y a quelques textes difficiles. JMD est parmi ceux-là. Les CHM, Macintosh, tous ceux à qui je l'ai donné, des nouveaux croyants, ont toujours été enchantés par Macintosh. Et ça, pour moi, là, on comprend quelque chose. Voilà. Nous sommes actuellement en danger. Réveillons-nous. Le Seigneur est prêt à nous aider si nous nous réveillons.